Bonjour à tous. C'est un honneur d'être là aujourd'hui devant vous, de pouvoir partager quelque chose qui j'espère, moi j'en suis convaincu, mais qui vient de Dieu et qui j'espère viendra de Dieu pour vous, qui va vous parler, qui va vous encourager, qu'on va pouvoir tous repartir différents de la manière dont on est arrivé un peu plus proche de Jésus, en le connaissant un peu mieux, en voulant avoir plus de lui et que ces cacahuètes vous donnent faim et soif pour que vous alliez vous nourrir aussi vous-même. C'est pas avec ces quelques versets que ça va vous soutenir ou vous soutenir ou vous donner la capacité de faire face à tout ce qui vous attend cette semaine, parce que la vie chrétienne, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. C'est pas forcément parce qu'on devient chrétien qu'on n'a plus de problèmes, que tout va bien, que Jésus a tout résolu d'un coup. Non, mais on fait face aux épreuves d'une manière différente, parce qu'on a un nouveau père, on a été adopté dans une nouvelle famille, et on est capable aussi de dépendre de quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous. En prenant la communion, ma prière interne de gratitude, c'était « Merci que dans cette coupe qui représente le sang de Jésus, il n'y ait que son sang, et qu'il n'y ait pas aussi le mien en fait. » Parce qu'à l'époque, on scellait une alliance avec le sang des deux parties qui faisaient le contrat. Et on disait, voilà, on met notre sang là pour dire si je romps ou si j'enfreins ma part du contrat, qu'il me soit fait comme il m'est fait là à travers ce sang qui est joint, que je meurs. Mais s'il y avait eu mon sang dans cette coupe aussi avec celui de Jésus, s'il avait dit, prenez cette coupe, ceci est notre sang. Mais l'alliance, elle aurait été brisée le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Parce que par nos propres forces, on n'est pas capable. On n'a pas en nous la capacité de respecter la loi. Merci pour la grâce. Et merci pour cette grâce qui nous pousse à désirer le chercher plus, lui obéir plus. Il y a quelqu'un qui a bien lavé sa Clio dehors parce que ça tape, hein. Ça reflète bien dans le pare-brise. Voilà, comme ça je vois tout le monde d'un coup. Alors je connais pas mal de gens ici. Je m'appelle Ludovic. Le Seigneur m'a sauvé un peu dans des conditions pas habituelles aux États-Unis. Je suis rentré en France il y a 7 ans et quelques jours. Je suis marié, j'ai un enfant, un deuxième en route. Et on sert Dieu du mieux qu'on peut. Voilà, j'ai l'impression que... Il y a beaucoup de besoins en France que je demande à Dieu de m'apprendre à le connaître comme il veut que je le connaisse, à pouvoir partager l'évangile comme il doit être partagé avec mes compatriotes, ce qui est totalement différent des États-Unis. On ne peut pas sauter sur quelqu'un et lui dire « Hey, tu connais Jésus ?» Parce que les Français, nous en général, on va dire « Oula, qui c'est ce fou? Quelle secte? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas d'argent et tout. » Et en fait... Voilà, ma prière du fond de mon cœur, c'est comment est-ce que, en me donnant au Seigneur, comment est-ce qu'en lui disant « prends mon âme », en lui donnant mon âme, je peux faire une différence avec ce qu'il m'a donné, pour lui, pour son royaume, pour aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il me reprenne. Et c'est un cheminement qui est long, mais je suis sûr qu'il sera aussi bon. Et je suis convaincu que la bonne œuvre qu'il a commencée en moi et en chacun d'entre nous, il va l'accomplir, il va la poursuivre, il va la parfaire jusqu'au jour où il va revenir. Amen. J'espère que je ne vais pas vous endormir. Mais ceux qui ont amené leur Bible, c'est bien. Ceux qui ne l'ont pas amené, je pense que c'est important de l'avoir dans son cœur, mais aussi sur soi. Est-ce que vous voulez bien ouvrir vos Bibles à l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, verset 41 ? Rassurez-vous, je ne prêche jamais plus longtemps qu'une heure et demie, deux heures. Après, j'arrête parce que j'ai soif. Luc, chapitre 2. Voilà, si vous voulez suivre avec moi, je vais commencer à partir du verset 41 et je vais lire jusqu'au verset 49. Ça parle de Jésus qui était dans le temple, ça parle de ses parents, ça parle de sa vie. Ses parents, donc les parents de Jésus, allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant, Jésus, resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pendant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant.
C'est l'alarme.
Ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voilà que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors, si c'est simplement du point de vue historique qu'on la lit, voilà, c'est sympa. On a appris quelques faits sur Jésus, sur le passage qui en dit le plus sur son adolescence, même si je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas trop d'adolescence. On passait de l'âge enfant à l'âge adulte. L'adolescence, ça a probablement été créé par notre société, parce qu'on aime bien garder les enfants un peu enfants, ça les déresponsabilise, comme ça ils apprennent pas vite un métier, ils rentrent pas vite dans l'âge adulte, ils sont pas très responsables, et nous, on pourvoit pour eux financièrement. Mais avant, je pense qu'on apprenait à partir de 12 ans, les notes historiques disent qu'on apprenait un métier, probablement le métier de son père, et puis c'est à l'âge de 12 ans qu'on commençait à mettre en œuvre ce que notre père nous apprenait, et on était efficace, on n'avait pas de temps pour aller rencontrer plein de filles, aller en boîte de nuit, rentrer bourré, prendre la voiture de papa et tout ça. À l'époque, ça ne se faisait pas. À l'âge de 12 ans, Jésus, il connaissait déjà pas mal sa Bible. Et ce n'était pas parce que c'était le Fils de Dieu et Dieu le Fils. C'était probablement juste parce que c'était l'enfant de parents qu'il avait éduqué dans la parole de Dieu. Ils avaient respecté les traditions qui étaient prescrites dans la loi. Il avait amené au temple à 8 jours. Et là, ils allaient, comme prescrit par la loi, ils allaient chaque année à Jérusalem pour les fêtes. Donc il y avait 3 fêtes par an. Et il est écrit dans l'Ancien Testament qu'aux alentours de l'âge de 12 ans, donc aux alentours du passage de l'enfance à l'âge adulte, il fallait que l'enfant apparaisse 3 fois l'année devant le Seigneur, donc à Jérusalem. Et on apprend plein de choses qui sont historiquement intéressantes, qui vont satisfaire notre intellect, mais qu'est-ce que ça va faire si je vous rends plus fort au niveau de vos connaissances historiques sur Jésus ? Tristement, rien. Vous en saurez plus si demain on lance une joute verbale sur qu'est-ce que Jésus a fait à l'âge de ses 12 ans. Vous en saurez peut-être plus que d'autres, mais est-ce que ça va vous transformer ? Est-ce que ça va vous rendre plus fort pour vivre votre vie chrétienne ? Non ? Non. Alors ce que j'aime bien faire, c'est qu'en général, je cherche ce que Dieu veut nous dire et je me dis, mais comment est-ce que si je le mets en pratique, ça fera de moi quelqu'un qui ferait avancer ton royaume ? Si quelqu'un m'a entendu, c'est gentil d'avoir poussé la voiture. En fait, ce passage, on priait avec des frères et sœurs qui me sont très chers et on cherchait la volonté de Dieu pour une situation. Et je me rends compte que c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce verset, que je n'avais pas lu depuis longtemps. Et en priant, il me dit, mais cherche encore plus, il y a plus à dire que juste une parole, que juste quelque chose qui peut prendre 5 minutes. Même si je ne vais pas prendre 2 heures, je voudrais qu'on essaye de voir ce passage autrement que contextuellement, historiquement. Qu'on aille au-delà des faits, qu'on aille au-delà de ce que nos oreilles charnels peuvent entendre, de ce que nos yeux charnels peuvent voir, et qu'on essaye de voir qu'est-ce que ça peut nous dire dans l'esprit. Comment est-ce qu'on peut être encouragé par ce passage ? Comment est-ce qu'on peut être mis au défi ? Pas pour qu'on sorte d'ici en se disant « Oh là là, je suis nul, je ne suis pas à la hauteur. » Mais « Oh là là, j'en suis là, et par la grâce de Dieu, je peux en arriver là. Et si j'en arrive là, c'est parce que c'est lui qui prend ma main, c'est lui qui me donne un joug qui est facile, un fardeau qui est léger et qui va non seulement me donner quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'il a pu me donner de faire, mais qui va le faire avec moi et pour moi, et moi je vais le faire pour lui, pour sa gloire. Et ça, dans un tout, ça va apporter gloire à Dieu, ça va faire avancer son royaume. On fait partie d'une génération perverse, on fait partie d'une génération décadente, et nous ici, là, on est le sel de la terre. On est ceux qui pouvons faire une différence. On est ceux qui pouvons briller pour Jésus. On n'a pas besoin d'être derrière un pupitre pour briller pour Jésus. On n'a pas besoin d'être éloquent. On a besoin d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. On n'a pas besoin de pouvoir donner des milliers d'euros à l'Église ou des milliards. On a besoin d'aimer notre prochain. Déjà, aimer les frères et sœurs en Christ, c'est dur. Mais aimer ceux qui nous haïssent, c'est encore plus dur. Alors ça aussi, c'est impossible à faire par nos propres forces. Mais Jésus en nous peut aimer les autres. On est différent. On est différent. Comme dans notre famille physique, dans notre famille spirituelle, on ne choisit pas nos frères et sœurs. Parce que si on les choisissait, le paradis ne serait pas représentatif de ce que Dieu veut faire. Mais on a le même papa. Et on va passer l'éternité ensemble. Et ça, ça doit aller et transcender toutes les différences qui peuvent nous définir. On est à l'université. L'unité dans la diversité. Ça, c'est l'Église. Parce qu'avec nos différences, si on fait un tout, on peut faire un tout égalitaire, bien coordonné, qui permet à Dieu de faire ce qu'il a à faire dans le monde encore aujourd'hui. S'il n'est pas revenu, c'est qu'il n'en a pas terminé. Alors, je reviens au mouton. Voilà, on a Jésus qui est à Jérusalem. Et le titre du message que je veux partager aujourd'hui, c'est « Mais où est Jésus ?» Mais où est Jésus ? Et c'est une question que j'aimerais qu'on se pose tous personnellement, dans le silence de notre cœur. Mais où est Jésus ? Mais où est-il dans ma vie ? Mais où est-il dans mon assemblée ? Mais où est-il dans mon emploi ? Mais où est-il dans mon service pour lui ? Mais où est-il dans ma famille ? Mais où est-il dans ce que je fais et dans ce que je vis ? Mais où est Jésus ? Spirituellement, en fait, on voit que à un moment, les parents de Jésus, ils se sont dit, mais où est Jésus ? Alors, y en a ici qui ont des enfants. Moi, j'ai un enfant. Si je perds mon fils de 19 mois des yeux, je me dis, mais où est Eliakim ? Parce qu'il est probablement en train ou de mettre ses doigts dans une prise, ou d'aller courir sous une voiture, ou d'essayer de sauter par-dessus la rambarde d'un balcon. Donc si je ne le vois pas, il faut que je le retrouve. Je ne peux pas être séparé de mon fils à moins que je sache qu'il est avec quelqu'un qui prend soin de lui. Et c'était pareil pour les parents de Jésus qui étaient un peu plus grands. Ils veulent savoir où il est. Mais spirituellement, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas notre fils. Et pourtant, Jésus a dit, quand on lui a dit, voilà, il y a tes parents qui attendent là pour te parler, ta mère et tes frères. Jésus leur a dit, mais qui sont ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs ? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin ? Ce sont ceux qui... Donc il nous a placés au même niveau, voire au-dessus de sa mère et de Jacques et de Jude. Parce que notre famille est composée de gens qui font la volonté du Père. Jésus, quand il le trouve en train de faire la volonté de son Père. C'est notre point commun. Maintenant, la richesse, c'est que la volonté de Dieu pour ma vie, c'est pas la même chose mot pour mot que la volonté de Dieu pour la vie de José, pour la vie de Nadine, pour la vie d'Isabelle. On a chacun notre rôle à chercher la volonté de Dieu pour ma vie personnellement et aujourd'hui. C'est notre responsabilité. On n'a plus de prêtres qui font le tampon entre Dieu et nous. On n'a plus Moïse qui va parler à Dieu et qui revient avec un voile pour pas qu'on soit trop proche de la gloire de Dieu. C'est quelque chose de joyeux. On n'a plus à dépendre d'un homme exactement qui va nous dire « Voilà quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, va te faire absoudre ou va donner pour des indulgences et tout. » Non, on a la capacité d'accéder nous-mêmes à Dieu, de s'avancer avec assurance devant le trône de grâce. Ceci est votre privilège. Et ça, c'est une joie. Mais c'est aussi quelque chose de très effrayant. Parce que ça veut dire que si je dépends plus d'un homme pour me dire quelle est la volonté de Dieu, ce sera plus cet homme-là qui rendra des comptes à Dieu pour la manière dont il m'a conduit vers lui, c'est moi-même qui vais devoir rendre des comptes. Et autant c'est heureux d'un côté, autant c'est effrayant de l'autre. Parce qu'on va devoir rendre compte à Dieu pour qu'est-ce que j'ai fait avec ce trésor que tu m'as donné ? Qu'est-ce que j'ai fait avec la vie éternelle ? Est-ce que je l'ai caché sous le pupitre et est-ce que je l'ai jamais proclamé ? Est-ce que je l'ai caché chez moi et quand je sors dans la rue, je mets mon visage de personne normale ? Parce que j'ai peur que si je dis, voilà, là je vois le biker, ben je vais à l'église, j'ai peur qu'il, J'ai peur de ce qu'il va penser de moi. Mais est-ce que je dois plutôt plaire à Dieu ou est-ce que je dois plutôt plaire aux hommes? Et je ne dis pas ça en vous disant que moi, à chaque fois que je vois quelqu'un, j'ai de la facilité à parler de Jésus. Non, c'est une lutte pour chacun d'entre nous. Et ça, on le sait tous. C'est pas facile. C'est pas facile de parler de Jésus. Là on est en milieu sécurisé. Parce que même si tout le monde ici n'est peut-être pas chrétien, au moins les gens qui sont assis ici, ils viennent et ils savent que le gars derrière le micro, il va leur parler de Jésus d'une manière ou d'une autre. Donc on a moins peur de dire « voilà, je suis chrétien ». Mais quand on va sortir, quand on va acheter le poulet à côté ou le pain ou quoi, est-ce qu'on a peur? Moi, oui, des fois. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce qu'on doit plus dépendre de Jésus? Oui. Alors, mais où est Jésus? Le fait est que je fais la transition des parents de Jésus qui vont chaque année à Jérusalem, ils vont chaque année, et nous en tant que chrétiens, souvent on fait les choses encore et encore et encore. On va à l'église chaque dimanche, on va à la réunion de prière chaque mercredi, moi je lis ma Bible chaque matin, je lis un psaume 3 fois par jour, je prie 2 fois par jour, je me lave les dents 2 fois par jour, j'espère que ça m'aidera à vous parler de près. Je fais des choses encore et encore et encore, au point que ça devient une routine. Alors c'est bien parce que je le fais, parce que ça donne à Dieu un moyen de me parler, ça me pousse à devenir un disciple qui est discipliné à travers une série de choses que je fais. Mais qu'est-ce qu'il se passe lorsque ma discipline, ma religion perd sa signification? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque la tradition ou selon la coutume... C'est pour ça que je pense que Daniel, il a dû choper mes notes à un moment, parce qu'il a un peu approché ça. Peut-être qu'il a utilisé ses qualités de pré-chrétien, d'avant sa vie chrétienne, pour rentrer chez moi et voir ce que j'avais écrit. Mais... qu'est-ce qui se passe lorsque la tradition a totalement assassiné la relation avec Jésus? Et que je fais les choses routinièrement, par coutume, en oubliant totalement la signification. Je lis les Écritures, mais où est Jésus? Je vais à l'église, mais où est Jésus? Je fais chaque année, chaque jour, chaque dimanche, chaque semaine, chaque trimestre, les mêmes choses que je sais qui plaisent à Dieu parce qu'elles émanent de la communication que j'ai à travers la relation personnelle avec lui. Mais petit à petit, avec la routine quotidienne, j'oublie la signification. Pourquoi je fais ce que je fais? Et nous, quand on enseigne nos enfants, ou nos parents, ou nos proches, ou nos cousins, ou nos amis, ou notre groupe d'études, je veux vous encourager à plus dire « pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'enseigne ça ? Que voilà ce que je fais, et voilà ce qui fait de moi un chrétien. » La seule chose qui fait de nous un chrétien, c'est la relation personnelle qu'on a avec Jésus-Christ. C'est le fait qu'à un moment dans notre vie, il y a un point où on a compris par la grâce de Dieu, par l'opération du Saint-Esprit, je suis un pécheur, il est mort à ma place, il a pris la colère de Dieu sur lui alors qu'elle était destinée à moi. Et je me donne à lui, oh, prends mon âme, deviens mon Seigneur, dis ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois dire, dis-moi ce que je dois changer, conforme-moi à ton image. C'est ça qui fait de nous des chrétiens, pas ce qu'on fait. On fait ce qu'on fait parce qu'on est reconnaissant que ceci se soit passé dans notre vie. Et si ça ne s'est pas passé, c'est terrible d'entendre ce que je dis en sachant que ça ne s'est pas vraiment passé dans nos vies. Mais ce n'est pas trop tard. Tant que vous respirez, ce n'est pas trop tard. Mais demain n'est jamais promis. Alors ils font des choses, mais... où est Jésus? Ils oublient leur propre fils. Ils oublient leur propre fils. C'est pas de la maltraitance. C'est pas de la maltraitance. On va voir pourquoi. Mais on sait qu'en tant que chrétien, on est appelé à un cheminement. On part de rien, on part de moins rien, et on doit en arriver au moment où Jésus nous reprendra, où il nous rappellera lui, où il reviendra, à être plus comme lui qu'au moment où on a commencé notre marche. Ça s'appelle la sanctification. C'est un travail quotidien. Et parfois, pour nous, la sanctification, elle fait ça. Elle ne fait pas ça. Parfois, elle fait ça. Et des fois, on se convertit et tout d'un coup, on comprend plein de choses. Et puis après, on se dit, mais où est Jésus? Alors des fois, Dieu se retire légèrement, pour nous pousser à le chercher plus loin. Quand je faisais de la muscu, j'avais toujours, quand on faisait des développés couchés, il y avait toujours un partenaire qui m'aidait à remonter une barre que je ne pouvais pas remonter par mes propres forces, pour m'aider à toujours pousser un peu plus. Et des fois, il se retirait. Il lâchait la barre. Et ça me poussait à forcer. Elle ne redescendait pas, mais elle ne montait plus. Mais la fois d'après, j'y arrivais. Et des fois, Jésus, il fait ça avec nous. Il se retire un peu plus loin pour qu'on aille gratter un peu plus loin, pour qu'on soit transformé un peu plus en son image. Jésus, il veut que vous le cherchiez comme vous avez cherché, si vous l'avez fait, je sais qu'à un moment dans notre vie, on l'a tous fait, votre amoureux ou votre amoureuse. Avec ardeur, avec passion, avec désir, on se réveille, on pense à lui, on se couche, on pense à lui. Quand il nous dit quelque chose, ça reste dans notre cœur, on l'écrit dans notre journal intime. C'est une relation. Alors, il veut qu'on le cherche. Et on n'a pas tous la même manière de s'y prendre. Et ça, ce n'est pas un mal. On est différents. Et c'est la grande qualité de l'Église, c'est qu'elle est composée de gens qui sont différents. Mais vous êtes beaux comme vous êtes. Et vous êtes précieux comme vous êtes. Et la manière que vous avez, que Dieu vous a donnée, de chercher Dieu personnellement, si c'est celle que Dieu vous a donnée, c'est la bonne. Et si ce n'est pas la même que la mienne, je ne suis personne pour vous juger et personne ne peut vous dire quoi faire. Si vous ne lisez pas votre Bible, il y a peut-être un problème. Et si vous passez du temps avec Jésus, peut-être qu'il vous dira de le faire. Mais moi, je ne peux pas vous dire, voilà Manu, ce que tu dois faire pour être un bon chrétien, tu dois prier 14 minutes par jour et lire ta Bible, 3 chapitres par jour de l'Ancien Testament, plus 2 chapitres avant d'aller te coucher. Je ne suis pas un docteur pour lui donner des médicaments. Lui doit savoir ce que Dieu lui demande et le mettre en face, en place. Personnel, c'est personnel. Et c'est pour ça que vous êtes précieux. Et c'est pour ça que vous comptez tellement pour Dieu. C'est parce qu'on peut tous prier en même temps et il nous entend tous en même temps. Alors que nous, des fois, on a 2 enfants, ils pleurent en même temps. On est obligé d'en faire taire un pour entendre l'autre. On ne peut pas entendre les deux qui se plaignent en même temps. Mais lui, il peut tous nous entendre en même temps. Et souvent, nos prières, elles ressemblent à des gémissements, à des pleurs. Papa, aide-moi avec ça, aide-moi, là j'ai besoin d'un nouveau travail, là j'ai un peu mal à la tête, là ça va pas s'il te plaît. Et puis il a des milliers de personnes autour du monde qui sont en train de lui demander d'intervenir et il le fait parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est Dieu Tout-Puissant et c'est le seul qui est comme ça. C'est le seul Dieu qui peut tout faire. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ouh là là, c'est très radical. Et le Dieu de l'islam? Et le Dieu des bouddhistes, oui, mais mon Dieu, il acceptera tous ceux qui viennent à lui. Tous. Ex-musulmans, ex-bouddhistes, ex-athées, ex-petites copines et tout, il acceptera tout le monde. Parce qu'il est grand et parce qu'il y a assez de place dans sa maison pour tout le monde. Alors, chaque année, les parents de Jésus étaient rentrés dans une coutume et c'est le signal d'avertissement pour nous aujourd'hui. Attention que notre coutume, que notre routine quotidienne ne tue pas notre relation avec Jésus et qu'on n'oublie pas la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait pour Dieu. Le christianisme ne consiste pas à cocher des cases pour avoir une bonne conscience. Ce qui purifie notre conscience, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Ce n'est pas parce que j'ai été à l'église 52 dimanches dans l'année et que je suis venu à l'étude biblique du mardi soir, 52 dimanches dans l'année, ce n'est pas ça qui purifie ma conscience. C'est parce que j'obéis à la volonté révélée de Dieu dans ma vie. Amen ? Ok. Quand vous endormez, je jette un micro. Alors, est-ce que ceux qui aiment la parole de Dieu veulent bien encore tourner avec moi ? Jusqu'à Galates, chapitre 3 et verset 3. Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? C'est pas très sympa pour un pasteur de dire ça à son église. Traité d'insensé... Il n'avait pas peur. Mais en fait, il a fait par écrit, mais il était loin. Là, ça aurait été un email, il aurait eu un texto en retour et tout. Mais ça ne va pas, comment tu nous parles, quitter. Êtes-vous tellement insensé? On commence par l'esprit et on poursuit par la chair. Ils ont commencé à aller à Jérusalem, certainement parce qu'ils savaient que c'était la chose que Dieu leur demandait de faire. Et puis, j'ai envie de dire que comme nous, après, ils continuent par la chair parce que spirituellement, souvent, on commence avec Jésus, on fait ce qu'il nous dit de faire et après... On rentre et on laisse Jésus. Mais où est Jésus? Il est resté à Jérusalem. Souvent, voilà, c'est midi, le service du dimanche matin est fini, on rentre, c'est l'heure de manger. Mais où est Jésus ? Peut-être que Jésus, il est resté là, parce qu'il voulait encore que je parle à quelqu'un. Il voulait que je donne cette parole d'encouragement. Il voulait que je prie pour un frère. Il voulait que je l'écoute, peut-être. Elle avait quelque chose à me dire. Il avait quelque chose à... un conseil à demander. Un coup de main pour un déménagement la semaine prochaine, quelque chose. Mais moi, c'est bon, j'ai coché ma case, c'est dimanche, c'est midi, je rentre. Mais où est Jésus ? J'arrive à la maison, je prie, merci pour la bouffe. Mais où est Jésus ? Il est à l'église. Voilà, c'est la fin de la réunion, mais où est Jésus ? Ben, il est encore chez toi, il avait un truc à te dire ce matin. Quand tu préparais ton message. Est-ce qu'on le cherche ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on est conscient d'où il est ? Alors on commence avec lui, et puis il arrive un moment où voilà, la vie chrétienne, on se convertit. Certains c'est dramatique, certains ça l'est pas. Certains sont nés dans des familles chrétiennes, certains pas. Voilà, plutôt exhaustivement, on a tous une histoire de conversion différente. C'est notre témoignage, c'est notre force pour dire voilà, je suis chrétien, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je ne me suis jamais rendu compte que vraiment j'avais besoin de venir personnellement à Jésus, et ce jour-là, je l'ai fait. Moi, j'ai grandi dans une famille athée, il a fallu que je trouve Jésus au fond d'une cellule de prison. Ce n'est pas pour ça qu'il m'y a laissé. Mais on a tous une histoire différente. L'essentiel, c'est que je l'ai trouvé là, ensuite il me dit d'aller là, je vais avec lui, je le suis. Je ne lui dis pas merci, je commence avec toi, les choses se passent super, c'est une sorte de lune de miel spirituelle. Hein, c'est génial, on se parle, on attend de se réveiller pour se voir, des fois on se réveille la nuit, on parle, etc. Et tout, c'est génial. Et puis, ça s'érode, la relation s'érode, parce qu'on a l'habitude. Parce que, voilà, ouais, il va me redire ça, il va me redire ça, il va encore me demander de faire ça, il va me demander d'être sympa avec Daniel, il va me demander de l'appeler et tout. Ça fait 8 fois qu'il me le demande, je sais. Alors, je continue ma route, doucement, doucement, mais lui, il est là. Et il me dit, voilà, là, j'ai un truc à faire dans le temple, j'ai des questions à poser à des gens, et voilà ce que je suis en train de faire, parce que c'est la volonté de mon père. En anglais, c'est « my father's business ». C'est l'entreprise de mon père, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est son job. Et moi, je fais ce que mon père me donne à faire comme travail. Et la Bible, elle dit, voilà, on n'est pas tous pasteurs, mais la Bible, elle dit, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Votre vrai employeur, si vous avez un emploi, c'est Dieu. Le vrai dirigeant de notre gouvernement, c'est Dieu. Il en place des bons, des mauvais, il en abaisse, il en élève, il en fait tomber, et tout ça, à la fin, contribuera à lui donner gloire. Où est Jésus dans ma vie ? Après, on s'est converti, on aime la prière, on aime parler à Jésus, puis petit à petit, ça s'érode, on oublie, on va au travail, on a des amis, on a rencontré des frères et sœurs en Christ, ils nous invitent à manger, on les invite, on doit réparer la maison, il y a un trou sur le toit, il y a une fuite dans les toilettes, on doit changer de voiture, on a des achats à faire, ah, là c'est les soldes et tout, et puis au bout d'un moment, on a continué notre route, ça fait une journée de marche, et on se rend compte, mais où est Jésus ? Bon, c'est pas si grave, il est avec les autres gars du groupe de prière, parce qu'ils pensaient qu'il était avec leurs proches. Alors normalement, peut-être que les hommes et les femmes ne voyageaient pas ensemble. Alors c'est pour ça que ce n'est pas de la maltraitance. Joseph a dû se dire, comme il est entre l'âge enfant et l'âge adulte, il ne voyage pas avec les hommes, il est avec sa mère. Marie, elle a dû se dire, bon, mais c'est bon, il est passé avec les hommes. Donc pendant un jour, bon, mais au bout d'un moment, tu as vu Jésus ? Non, je n'ai pas vu Jésus, mais où est Jésus ? Voilà, ils sont dans leur routine, ils font leur truc spirituel, religieux, et puis ils ont oublié Jésus. Et nous voilà, on fait notre truc, on va au travail, on va chercher les enfants à l'école, on fait à manger, on invite les amis, on fait les soldes. Et puis au bout d'un moment, mais où est Jésus ? Est-ce que je suis en train de faire sa volonté, la volonté révélée du Père dans ma vie à travers Jésus, mon Sauveur ? Mais où est Jésus ? Je suis pris dans le chaos de la vie quotidienne et c'est facile d'être pris par les choses qu'on fait. Mais on n'est pas ce qu'on est, et ça c'est important, on n'est pas ce qu'on est à cause de ce qu'on fait. On est ce qu'on est à cause de ce, parce qu'il a dit qu'on est ce qu'on est. Jésus déclare qui vous êtes. Ce que vous faites ne définit pas qui vous êtes. C'est l'excroissance de votre personnalité qui fera que vous ferez ce que vous faites. Mais qui vous êtes vraiment est défini par ce qui est dit de vous, de la part de Dieu, dans sa parole. Merci. À Dubaï, à l'aéroport de Dubaï, mon mentor qui a rencontré un homme, ils sont assis, il voulait recharger son téléphone, et il voulait juste être tranquille, et le gars lui dit, vous faites quoi dans la vie ? Il lui dit, moi je suis pasteur. Et l'autre lui répond, moi je suis athée. Et il lui dit, mais c'est pas ce que vous faites dans la vie, athée. Moi je suis pasteur, c'est ce que je fais dans la vie. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est pas ce que vous êtes. Et souvent on essaye de faire des choses pour prouver qui on est. Mais est-ce qu'on cherche vraiment en Jésus notre identité ? Parce que votre identité, quand elle est révélée par Dieu dans votre vie, mais c'est génial ! Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Si quelqu'un vient et vous traite de tous les noms, de tous les mots, vous dénigre, vous dit que vous savez pas chanter et tout. Si, je sais, parce que Dieu m'a dit que je suis appelé à être qui je suis, et voilà ce qu'il est en train de faire et ce qu'il me demande de faire, et ça c'est qui je suis. Il y en a qui prêchent mieux que moi. S'ils me donnent un message à prêcher, même si c'est pas aussi bien que Samuel Peter Schmidt ou d'autres, ou Daniel Coronès, vous connaissez ? C'est pas grave, je suis qui je suis parce qu'il m'a dit qui je suis. Et ça me définit. Je ne peux pas me laisser prendre dans les rouleaux et les chaos de la vie quotidienne en oubliant où est Jésus. Constamment revenir à Jésus. Et c'est ce qu'ils font, et c'est la bonne nouvelle. Des fois, on se lance dans un ministère, dans une œuvre, dans une église. On se dit, mais moi, je ne sais pas où est Jésus, mais ce n'est pas grave. Il est avec Daniel, il est avec Manu, il est avec José. Donc, quelque part, il est un peu avec nous. Je pense qu'il est avec eux. Il pensait qu'il était avec les autres. Mais ça ne suffit pas. Allô ? Ça ne suffit pas. Je ne peux pas que penser. Je dois savoir. Jésus, ok, il est peut-être avec Daniel, mais il est avec moi. Et moi, je suis avec lui. Je vais en pèlerinage à Jérusalem. Je vais à l'église. C'est pareil. C'est des choses qu'on fait pour plaire à Dieu, dans le but de plaire à Dieu, ou par... Normalement, on devrait vraiment les faire parce qu'on est reconnaissant qu'il nous ait sauvés. Alors, je le fais. Mais après, je repars dans ma vie en me disant, c'est bon, c'est fait, il va venir avec moi. La vie chrétienne n'a jamais été imaginée par Dieu comme telle. C'est pas je fais mon truc et je demande à Dieu de s'associer à ma bonne idée que j'ai pour son royaume. C'est je regarde avec les yeux de la foi, là Dieu est à l'œuvre et là je m'y joins. Là il m'appelle à être et là je m'y joins. J'ai bientôt fini. Ça va ? Vous n'êtes pas encore endormi ? C'est pas je tire Dieu avec moi. Allez, Dieu est avec moi, c'est bon. Non, est-ce que je suis avec Dieu ? Et si je ne suis pas avec Dieu, mais où est Jésus ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on voit aussi dans ce passage une illustration de la repentance. La repentance, c'est quoi ? C'est le demi-tour. Ce n'est pas une révolution. C'est pour ça qu'en France, ça ne marche pas. On fait des révolutions. Une révolution, c'est un tour complet. Donc on va dans la mauvaise direction, on fait un tour complet, et on continue, on va dans la mauvaise direction. Une repentance, c'est un 180. Je vais par là, ensuite je vais par là, c'est la direction opposée. Je vais dans le chemin du péché, je me repens, j'essaye d'aller dans le chemin de la justice par la grâce de Dieu. On n'a pas tout compris en France. On fait des révolutions, on fait des tours. Voilà, on continue dans la mauvaise direction, mais on a fait un tour. On a perdu un peu de temps. Il y a des ronds-points partout. Voilà. Non, on va faire un demi-tour. On fait demi-tour. Ils se repentent. Mais où est Jésus ? Ah, il n'est pas avec nous. Demi-tour. Demi-tour. Ils étaient, en fait, j'ai regardé, alors je ne suis pas un étudiant de grec, mais j'ai regardé dans les mots, dans le dictionnaire grec, pour voir le mot, ils le cherchaient, c'était pas Jésus ? Jésus ? Non, c'était Jésus ! Comme dans les films où ils ont perdu leur enfant. Ils crient, mais où tu es ? S'il est un peu loin, qu'ils nous entendent, qu'ils puissent revenir. On a fait un week-end avec les jeunes de l'église sur une île. Moi, j'ai pris un vuvuzela. C'est cette grosse trompette qu'il y avait pendant la Coupe du Monde qui fait un bruit énorme. Parce qu'on a dit aux jeunes, Si vous êtes loin au moment où on a besoin que vous soyez prêt, ben, vous entendrez ce bruit et vous reviendrez. Bon, ça n'a pas tout à fait marché. Mais j'ai fait de mon mieux pour les faire revenir. Et nous, dans notre vie, on doit avoir la même attitude spirituellement que l'avaient les parents de Jésus. Si on se rend compte, parce que le but de ce message, c'est de prendre conscience que peut-être à un moment dans notre vie, pas forcément dans tous les domaines, peut-être dans tous les domaines, peut-être dans un des domaines de notre vie spirituelle, on a laissé Jésus en arrière. Et là, on doit se dire aujourd'hui, prendre conscience, je prie que c'est ce que Dieu fasse en vous, j'ai laissé Jésus, Jésus, tu es où? Et la réponse, c'est qu'on n'a pas besoin de s'égosiller à crier. Mais là, ça fait du bien parce que je vois qu'il s'endorme. Nadine. On n'a pas besoin de s'égosiller. Je vous donne la réponse, où est Jésus? C'est dans la Bible. Il est au dernier endroit où vous l'avez vu à l'œuvre. Il est en train de faire la dernière chose qu'il vous a dit de faire et que vous avez peut-être choisi de ne pas faire. Ou vous avez été au-delà. Il vous a dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Maintenant, on a des méga-churches aux États-Unis, il y a 30 000 personnes, il n'y a plus de relations. Les gens, ils viennent, ils s'assoient, ils regardent, ils écoutent, ils sont divertis ou encouragés, et puis ils repartent. Et puis les mecs à côté, ils ne se connaissent pas, c'est compliqué. Là, on a la possibilité quand même de connaître les prénoms de tout le monde. Il y a une communion fraternelle, c'est possible, c'est réalisable. S'il me dit, voilà, commence une église, et je veux que tu sois un encouragement pour les 8 maisons de ton quartier... Ça ne sert à rien que j'aille au-delà et de faire un truc qui va englober toute la Côte d'Azur, si ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Et pourtant, ça peut marcher aux yeux du monde. Et si je ne le trouve plus quand il y a 10 000 personnes dans mon salon empilé, où est Jésus? Il est resté là où il m'avait dit d'être, avec mes 8 voisins. Par exemple, c'est un exemple, mais ça aide à comprendre le principe que j'essaye de donner. Où est Jésus? Il est au dernier endroit où tu l'as vu à l'œuvre dans ta vie. La vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose de sec. Ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux. Ce n'est pas parce qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas, qu'on ne va pas en boîte, qu'on ne trompe pas nos femmes ou nos maris, qu'on ne conduit pas des voitures de luxe à 200 sur l'autoroute parce qu'on peut payer les amendes, que la vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose de palpitant. C'est palpitant parce que tous les jours, il y a un mémo posé sur le bureau de notre cœur qui vient de la part du directeur général de l'univers qui nous dit « Voilà aujourd'hui ce que j'ai prévu pour toi. » Et ça, c'est excitant. Tous les jours, on découvre que Dieu fait une chose nouvelle. Il leur dit « Voici, je fais une chose nouvelle. » Tous les jours dans ta vie, dans ta relation avec lui, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Ça, c'est génial. Parce que la chose nouvelle qu'il fait en moi, ce n'est pas celle qu'il fait en toi. Donc c'est à toi d'aller chercher et de découvrir avec ta relation avec Jésus cette chose nouvelle. Mais où est Jésus? Peut-être en train de t'écrire un petit message dans ton cœur en disant voilà, voilà ce que j'ai prévu pour toi. J'ai des plans de paix, j'ai des plans de te prospérer, c'est-à-dire de te faire aller bien spirituellement, de te guérir, de panser tes blessures, de t'aider à mieux me connaître, à mieux me ressembler. Parce que quand tu vas fonctionner comme je t'ai créé pour fonctionner, tu vas bien fonctionner. Je ne peux pas conduire ma voiture en marche arrière tout le temps. Ce n'est pas fait pour. Il y a 5 vitesses en avant, 1 en arrière. Si je vais en avant, il faut que je passe la 5e à un moment. Si tu as l'impression d'être une voiture et que depuis que tu es devenu chrétien, tu conduis en marche arrière, c'est frustrant. C'est super frustrant. Dieu, il va te dire, non, voilà comment tu as été fait. Voilà les dons que je t'ai donnés. Voilà tes qualités. Voilà ce que je veux développer en toi. Voilà ce qui ne va pas et que je veux réparer. Et si tu me laisses faire, tu vas voir, tu seras rapidement en 5e. Et là, ça va être génial. Tu mets le coude, c'est même pas toi qui conduis. Alors tu mets le coude sur la fenêtre, tu laisses Jésus conduire et tu fais ce qu'il te dit. Et ça, c'est génial. C'est palpitant. Parce qu'il va te dire, aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas aller pour cette offre d'emploi et je vais te demander de parler de moi au lieu de dire ce que tu as fait professionnellement dans le passé. Et tu auras quand même l'emploi. Ça, je dis c'est vrai parce que c'est ce que j'ai vécu personnellement. Ça semblait totalement fou. Mais ça a marché. Mais ça dépend d'une relation personnelle avec lui. L'entretien d'embauche suivant, il ne va peut-être pas me dire de faire ça. Je ne peux pas dire, il m'a dit de faire ça une fois, alors c'est la volonté de Dieu pour le reste de ma vie. Non, tous les jours, je vais chercher ma manne. La manne d'hier, elle est pourrie. La manne de demain, elle n'y est pas encore. J'ai besoin de la manne d'aujourd'hui. Amen. Alors, où est Jésus? Où est-il? Il est en train de faire la volonté du Père. Cherchons-la et associons-nous. Voilà ce que je veux vous encourager ce matin. Il n'est pas. Les parents, ils viennent voir Jésus, ils lui disent « Mais pourquoi tu n'es pas venu avec nous ?» et tout. C'est ce qu'on fait des fois. Notre vie spirituelle, elle devient totalement pourrie, on s'ennuie, on trouve que c'est mort, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus rien qui change. Et on prie, alors on prie. « Mais Jésus, ça n'avance pas là, il n'y a rien qui se passe, les gens ne se convertissent pas, les gens ne changent pas, les trucs, ça ne va pas et tout. » Et c'est ce qu'il dit, ses parents, tu n'es pas venu avec nous. Il dit « Mais je ne vous ai jamais dit de partir. » Et pour bien préciser, dans les versets suivants, ils disent qu'il était soumis à ses parents. Donc ce n'est pas de la rébellion infantile, ce n'est pas l'ado en crise. Mais on blâme Jésus, on blâme Jésus quand ça ne va pas dans notre vie spirituelle. Il leur dit « Non, mais moi je suis en train de faire la volonté du Père, et vous ?» Et souvent on va à Jésus, on dit « Oh là là, je n'arrive pas à conduire quelqu'un à toi, Seigneur, je ne sais pas faire ci ou ça, ça ne va pas. » Il dit « Mais je ne t'ai jamais demandé... Moi, je fais la volonté du Père, et voilà la volonté du Père pour ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Où tu es ? » Ça ne peut pas être toujours la faute de Jésus. Il a pris toutes nos fautes sur lui une fois. C'est bon. Maintenant, on se prend en main, et vous allez voir que ça va être palpitant. Ça peut être trop petit ici, rapidement. Parce qu'on est la lumière du monde, on est le sel de la terre. Et on est tous différents. Et on va tous prendre notre place dans la volonté de Dieu, qui nous inclut tous. Et ça va faire boum, dans le bon sens. Pas de terrorisme. Amen. L'essentiel, c'est que vous soyez assurés qu'il vous aime profondément, au point qu'il a voulu mourir à votre place. Parce qu'il a un plan pour votre vie, et qu'il aurait pu faire autre chose sans les hommes. Il a choisi de nous faire. Il a choisi de nous donner le libre arbitre, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et maintenant, si vous mettez votre libre arbitre à sa disposition, ça va être explosif. Dynamo, c'est le mot pour l'action du Saint-Esprit. C'est dynamite. Ça va booster les gens autour de vous. Vous allez être vivant, vous allez avoir un sourire que vous ne pourrez pas enlever. Vous allez avoir de la joie qui va déborder, vous allez avoir des paroles. Vous allez être qui vous êtes le dimanche matin, du lundi au samedi. Et ça, ça m'excite. Parce que j'ai envie qu'on soit encore plus fort pour lui. Et qu'on ressente encore plus son amour, et qu'on soit encore plus confiant dans sa volonté. Voilà, je propose que, pendant que je passe le micro à Daniel, on prenne un petit moment, chacun perso, dans le silence de notre cœur, pour se poser la question, est-ce que Jésus est avec moi ? Mais où est Jésus, si je l'ai laissé ? Et il va vous donner cette réponse, il va vous la donner.